Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud, journaliste à 20 minutes, et à l'occasion du Festival international du film fantastique de Gérard May, dans les Vosges, on se pose la question, pourquoi la France, qui a inventé le cinéma fantastique, n'est-elle toujours pas la patrie du cinéma mondial de l'imaginaire ? Pour répondre, j'accueille ma collègue.
Je suis Caroline Vieille, je m'occupe du cinéma 20 minutes et je pars au festival de Gérard May, là, tout bientôt.
Gérard May et non pas Gérard Mer, comme j'ai dit.
Ah oui, parce que si on dit Gérard Mer, comme t'as dit, on est décapité sur place vu que c'est un festival de films fantastiques.
Gérard May qui est...
Un festival de films fantastiques, horreur, science-fiction, tout ce qu'on veut. Et il a remplacé Avoria. Pas Avoriaz.
Je
crois que c'est finalement un des trucs dans les festivals de films fantastiques, il y a toujours une lettre qui disparaît. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est un phénomène à étudier, je crois.
On va parler du fantastique et on va parler du fantastique dans notre pays. Parce que la France, c'est quand même la pionnière du film fantastique. Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune, 1902. Mais la France n'est pas aujourd'hui la mecque du film fantastique. Et alors, vous se demandez pourquoi ?
Alors déjà, ça change, ce qui est quand même vachement bien. Mais effectivement, pendant très longtemps, ce n'était pas du tout dans la tradition française de faire du cinéma, surtout d'horreur d'ailleurs en fait. Fantastique, on a eu pas mal de choses, mais en horreur pure, c'était assez rare, c'était souvent raté, et c'est pas du tout, c'est pas dans la tradition française.
L'horreur a un visage.
Le petit constat, il y a quand même beaucoup, beaucoup de littérature de l'imaginaire en France. Jules Verne, pour parler des anciens. Aujourd'hui, Christelle Dabos, qui a fait sa tétralogie sur la passe miroir. On a eu un Goncourt en 2020, Hervé Le Tellier avec L'Anomalie. Dans les jeux vidéo, la France, en chiffre d'affaires en Europe, c'est deuxième derrière le Royaume-Uni.
Avec des trucs merveilleux d'ailleurs, excellent. On est très très bons.
Excellent. Les studios français sont reconnus dans le monde pour leur savoir-faire et ça génère 5 milliards de chiffre d'affaires par an.
Bon, on change de métier tout de suite.
Ben voilà, donc on va quand même parler de cinéma. Est-ce que déjà c'est un problème de culture cinématographique ?
Alors je pense oui, les gens ne vont pas voir beaucoup de films d'horreur en France, dans l'absolu. Pendant très longtemps c'était un genre, j'insiste plutôt sur l'horreur que sur le merveilleux, c'est encore autre chose, ou sur le pur fantastique, ou alors il y a beaucoup de films plutôt intello entre guillemets, ce qui pour moi n'est pas péjoratif. Mais pour l'horreur, oui, effectivement c'est un problème de culture. Pendant très longtemps le cinéma d'horreur était considéré comme un cinéma de série B voire Z même carrément, et donc, il y avait peu de public, tout bêtement, et y compris pour le cinéma américain. Ça a changé avec des films comme le Dracula de Coppola, par exemple, qui a fait d'un seul coup du cinéma d'horreur un cinéma de qualité, qui était cinéma grand public.
Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved.
Et ça a mis un petit peu de temps à se répercuter sur la France, voire même un brave moment, en grande partie parce que beaucoup de cinéastes français qui ont fait des films, c'était pas du tout accessible au grand public. Je pense à Martyr de Pascal Laugier, qui est un film extraordinairement violent. Et puis voilà, les films marchaient pas, et ben donc on mettait pas de sous dedans. Ça va assez vite, parce qu'on estimait que c'était pas rentable.
Les gens sont réticents à avoir de l'horreur, ou les réalisateurs trouvent que l'horreur, c'est un peu nul, et donc on va pas en faire, ou il y a des choses qui sont beaucoup plus intellectuelles, et faisons un Romère.
Alors, plusieurs choses. Il y a un phénomène qui est très important à souligner, c'est que beaucoup de fans de cinéma fantastique ne veulent pas aller voir les films français.
Ah.
Ils se sont collés dans l'idée à la base que c'était nul, et donc ils n'y vont pas. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup joué, et je pense que le phénomène est en train de changer avec des films, par exemple, comme Grave, de Julia Ducournau, comme Titane, aussi de Julia Ducournau, ou comme La Nuée, de Just Philippot, avec aussi l'accession de ces films de genre au grand palmarès des grands festivals.
Est-ce que c'est pas aussi un problème de catégorie ? Dans la littérature, on met souvent en littérature jeunesse ou jeune adulte tout ce qui est les littératures de l'imaginaire. Et c'est assez rare de voir un Goncourt, L'Anomalie, qui fait partie de cette littérature de l'imaginaire. Est-ce que dans le cinéma de l'imaginaire, c'est un peu la même chose ? C'est une histoire de catégorisation et on range tout ce qui est non général, hop, du côté jeunesse.
Alors non, pas du côté jeunesse, parce que la plupart des films fantastiques français sont vraiment pas des films qui sont faits pour les ados.
Alors, ils les sont jeunes
souvent,
adultes.
Ouais, c'est ça. Ils sont, c'est souvent interdit. Quand c'est un petit peu rock'n'roll, c'est souvent interdit au moins de 16 ans. Voire, ça risque même le 18, ce qui a été le cas de Martyr. Je pense aussi qu'il y a un véritable mépris. Enfin, qu'il y avait, en tout cas, un véritable mépris pour le genre. Et qu'un film, ça coûte plus cher qu'un livre, tout bas aussi.
Ah, ben bah oui, parce qu'on va parler des financements.
Eh
ah
bah oui, ça coûte des sous. Donc, ça veut dire, soyons clairs. C'est qu'un film, qu'il soit rentable, il faut aussi qu'il passe à la télé. Si le film en question, il est interdit au moins de 12 ou de 16 ans, il va pas passer en prime time. Deuxième partie de soirée, ça veut dire que ça rapporte moins de sous. Donc ça veut dire que c'est de base largement moins rentable, surtout si ça marche pas en salle.
Et il n'y a pas des producteurs identifiés spécial fantastique?
Non, alors il y a des gens qui aiment ça et puis qui se bagarrent pour, hein, mais avec l'idée aussi de pouvoir l'exporter. Tous les auteurs français de films fantastiques ou de films d'horreur, soit ils s'exportent eux-mêmes, je pense à Alexandre Aja qui maintenant fait carrière aux États-Unis, soit leurs films sont exportés, c'est-à-dire qu'ils sont montrables partout. Un film fantastique ne peut pas réellement exister en France, à mon sens. Un film d'horreur pure ne peut pas exister en France uniquement par la sortie salle. D'ailleurs, beaucoup y renoncent pour choisir d'autres choses, des plateformes, une distribution parallèle en VOD, enfin, ce genre de choses. Je pense à un film, par exemple, qui s'appelle « La chose derrière la porte » de Fabrice Blin. Bon, ce film, il sortira pas en salle, c'est pas rentable. Ça demande un tel investissement en publicité, en promotion, qu'il va partir tout de suite sur des plateformes, en DVD, même bien que le support physique, ça devient de plus en plus compliqué. Mais il n'a pas du tout été conçu pour sortir en salle.
Le problème du manque de films fantastiques en France, est-ce que ce ne serait pas aussi un problème technologique? Je m'explique que les boîtes d'effets spéciaux, soit seraient trop chères, soit seraient un peu à la traîne par rapport à des boîtes américaines.
Enfin, Laetitia, mais qu'est-ce que vous dites, mon petit bouchon?
Ah ben moi, je fais un podcast, hein, je pose des questions.
Alors, non, mais trêve de bêtises, non. Alors là, franchement, absolument pas. Les boîtes d'effets spéciaux françaises sont réputées dans le monde entier, elles bossent partout, que ce soit les effets spéciaux numériques ou les effets spéciaux physiques, à savoir maquillage, prothèses, ce genre de choses, où on a des artistes tout à fait remarquables, d'ailleurs, qui vont souvent bosser à l'étranger. Hein. Là, Jean-Christophe Spallacini, qui est un de mes préférés, David Scherrer, vraiment, on a tout ce qu'il faut à la maison, si j'ose dire.
Eux aussi, ils sont plus dans l'export que dans le marché franco-français.
Alors, ils sont dans l'export et dans la série aussi. Des effets spéciaux, on en a besoin pour tous les films, hein, que ce soit les effets spéciaux physiques ou les effets spéciaux numériques. Donc, non, non, eux, ils ont du boulot. Et même quand il n'y avait pas beaucoup de films d'horreur, ils se maintenaient à flot par d'autres productions.
Tu disais en tout début d'entretien, il y a quand même un frémissement, un petit renouveau, il y a quand même quelque chose qui se passe du côté du film fantastique français, Le règne animal, réalisé par Thomas Cayley. C'est comme ça qu'on dit.
Oui, oui.
Ou le film d'animation Mars Express, cette
Absolument.
Année.
Bah, alors, Mars Express, j'aimerais que ça marche mieux parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est un très très beau film, l'animation.
Film d'animation.
Voilà, c'est très inventif. Thomas Cayley et Le règne animal, ce qui est génial, c'est que ça réconcilie tout le monde. Tout le monde est content. C'est passé à Cannes. Ça a un magnifique succès public. Les critiques ont été dithyrambiques. C'est vraiment une très très grande réussite. Alors c'est un film qui est à la fois fantastique et sociétal. C'est pas vraiment un film d'horreur, hein, puisqu'il s'agit
fantastique.
Oui, oui, c'est ça. Il s'agit de gens qui se métamorphosent en animaux. Ça parle de problèmes sociétaux. Ça peut, il y a une très belle histoire de paternité entre Romain Duris et le jeune acteur Paul Kircher. C'est plus accessible que le cinéma d'horreur pur, le cinéma de genre qui ne plaît qu'à un public limité.
C'est possible de réitérer ce genre de succès pour que ça marche vraiment? Ou il faut passer drame sociétal avec une once de fantastique pour que ça passe?
Alors, ce qui est assez drôle, et ça c'est valable dans tous les domaines, et tu seras d'accord avec moi, c'est que les gens veulent toujours reproduire des succès à l'identique, et ça marche rarement comme ça la vie. C'est-à-dire que quand quelque chose a fonctionné, ça ne veut pas dire que si on le copie, si au lieu de se transformer en animaux, le prochain film il se transforme en poisson, ça marchera mieux. C'est assez peu prévisible.
Certes, mais je fais la contradiction en te disant, les séries Marvel...
Je m'appelle Tony Stark et je n'ai pas peur de vous.
Ça marche du feu de Dieu depuis 20-25 ans
maintenant. Oui, là ça commence à s'essouffler méchamment.
Ah bah oui, mais bon, c'est pendant 20 ans, ça a été une machine à cash énorme.
La différence des séries Marvel, c'est que c'était un univers préexistant,
oui,
déjà, et que c'est feuilletonnant. C'est-à-dire qu'on, oui, ça se croise, on retrouve les personnages et tout ça. Et voilà, on va pas faire la suite de l'histoire du règne animal.
Valérian, c'est quand même bien français.
Oui, oui, oui.
Ça aurait pu faire beaucoup de suites, parce qu'il y a eu plein d'albums, parce que c'est une histoire préexistante. Exactement. Bide intégral.
Bah oui, parce que le film est raté et que les gens, ils sont pas allés. Hein. Là, il n'y a pas 36...
Oui, mais là, pour le coup, on peut pas dire que tous les Marvel sont des summums, des bijoux de l'histoire et
Absolument. Je pense aussi que Marvel s'est connu dans le monde entier, ce qui n'est pas forcément le cas de Valérian.
Oui.
Et puis, il n'y a pas eu le même type de distribution non plus. La force de frappe pour sortir les Marvel ou les DC, ça n'a rien à voir avec la force de frappe pour sortir nos films. C'est-à-dire qu'un succès, alors je dirais probablement une ânerie quant aux chiffres, mais un succès comme le Thomas Cayley, le règne animal, admettons qu'il ait fait 1 million, c'est inespéré. Pour un Marvel, 1 million, c'est raté.
Donc, ce n'est pas une histoire qui manquerait des séries aussi fortes et aussi populaires en France que dans le monde anglo-saxon. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, par exemple Star Trek, là, les Marvel, je t'en parlais, mais aussi The Walking Dead dans les séries.
On a des séries en France qui marchent bien, mais ce n'est pas des séries fantastiques.
Bah, ce n'est pas Doctor Who chez
non,
les Anglais.
Non, on a des suites de films. Enfin, je ne sais pas, Les Tuches, bien sûr. Oui. Voilà. C'est une série qui fonctionne très, très bien. On prend des films jusqu'à ad nauseam, hein, jusqu'à ce que les gens en aient vraiment ras-le-bol. Mais ça existe en France, mais pas dans le genre fantastique. En même temps, est-ce qu'on a intérêt à copier tout le temps les Américains ou les Italiens ? Il y a une grande vague italienne de films d'horreur aussi. Moi, je ne le crois pas, ça. Hein. Je pense que ce qui a fait aussi la différence de Thomas Cayet et du Règne animal, ou ce qui fait le charme de Vermine, par exemple, ou de Gueule noire, le film de Mathieu Thury qui se passe dans les mines au milieu des années 50, dans les mines du Nord, c'est que ça a une identité qui est différente de celle des Américains. Ça n'a aucun, à mon sens, intérêt d'essayer de copier ce que font les Américains très bien, ou les Anglo-Saxons très bien. Il faut trouver une identité qui nous est propre.
Donc, c'est des one shot pour faire un bon anglicisme.
Alors,
c'est
oui.
un coup.
Bah, c'est un coup pour celui-là, mais c'est pas un coup pour le genre.
Donc, Frémissement, pas tellement.
Alors, je pense que le film fantastique français a pris beaucoup d'importance. Il y a quand même eu la Palme d'Or à Cannes, le film fantastique français avec Titane de Julia Ducournau.
Oui, mais ça, c'est une reconnaissance intellectuelle de la profession, mais ce n'est pas une reconnaissance du public.
Ah ouais, mais ça aide. Alors, ça aide vraiment à produire d'autres films. Hein. Ça veut dire que d'un seul coup, ce genre-là est considéré par les professionnels, donc ceux qui payent, hein, je schématise, mais est considéré comme un genre honorable, ce qu'il n'était pas avant, et ça, c'est très bien. Hein. Je pense que Le Règne animal fait avancer dans cette voie aussi. Donc oui, je pense qu'il y a un frémissement et j'espère surtout que la qualité des films va rester importante, qu'on ne va pas redescendre en qualité. Après, il y a des films plus anciens qui n'ont pas forcément marché, qui sont tout à fait aptes à être redécouverts et on les recommande. Vous voyez Shaitan de Kim Chapiron, Calvaire de Fabrice Duvels. Bon, il n'est pas français, il est belge, mais on va lui coller une dérogation pour sur ce coup-là. Enfin, il y a plein de choses à voir. Découvrez Jean Rollin, le pape du fantastique, qui était un amoureux fou de petites jeunes filles en petite tenue et de vampires. C'est des films à redécouvrir, il y a plein de choses à redécouvrir en France.
Merci à Caroline Vier pour ses lumières. Vous pouvez retrouver ses papiers, ses vidéos sur 20minutes.fr. Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser la note maximale sur Apple Podcasts et Spotify. C'est bonbon pour le référencement. Minute Papillon, aux manettes, Anne-Laetitia Béraud, pour m'écrire une adresse audio@20minutes.fr. Et pour vous abonner à ce podcast, visez la page Les podcasts de 20 minutes sur votre plateforme d'écoute préférée.
Hasta la vista, baby.
Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.